opinions bien à elle.
Sophie Durocher.
Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher en ce splendide 29 mars 2019. Pourquoi est-ce une journée splendide? Ben écoutez, c'est le lendemain d'une journée merveilleuse. Hier, la naissance de la laïcité au Québec, le renvoi du crucifix à l'endroit où il doit être, c'est-à-dire dans un contexte patrimonial et muséal, plutôt que de siéger au-dessus de la tête de ceux qui siègent et qui édictent nos lois. Hallelujah! La laïcité est arrivée au Québec. Non, je vous taquine. Je respecte tout à fait votre opinion si vous n'êtes pas du tout d'accord avec le projet de loi sur la laïcité. Après tout, le nom de l'émission, c'est toujours bien. On n'est pas obligé d'être d'accord. On va revenir sur cette question de la laïcité et la perception des anglophones, justement, de ce fameux projet de loi du gouvernement de la CAQ. On va revenir plus tard à l'émission avec Lise Ravary. On va également parler de télévision avec Guy Fournier. Mais d'abord, il y a un livre que j'ai vu passer récemment. Et je me suis dit, il faut absolument que je reçoive cet invité. Je sais qu'il est déjà allé à d'autres émissions ici à Cube, chez mes collègues Les Effrontés, le matin. Mais quand j'ai vu passer ce livre-là, La vie en gros de Michaël Bergeron, je me suis dit, je dois parler avec ce monsieur-là. Parce que il y a un an ou deux, j'avais écrit une chronique dans le journal à propos de l'obésité morbide et c'est une des fois dans toute ma carrière où j'ai reçu le plus de courriels haineux. Une des fois, parce que j'en reçois mon lot. Mais cette fois-là, j'avais reçu beaucoup de courriels haineux. Beaucoup de gens me traitaient de grossophobe, qui est évidemment une étiquette que je refuse. Je me suis dit, quelle excellente occasion de parler avec Michaël Bergeron, puisque son livre, lui, parle de grossophobie. Alors bonjour Michaël Bergeron.
Bonjour Sophie.
Est-ce que à l'époque vous aviez lu mon texte puis vous étiez dit "Hey Durocher, c'est une maudite grossophobe"?
j'essaie de replacer. C'était, je pense que vous parlé d'une photo. Hein,
voilà, c'est ça. Je parlais d'obésité morbide en disant il y avait une photographe qui s'était fait comme spécialité de photographier des gens qui étaient des obèses morbides. Et dans les magazines féminins, on disait « Mon Dieu, regardez ces corps comme ils sont magnifiques ». Et moi, je disais que c'était hypocrite de la part des magazines, que j'étais convaincue que malgré le fait que c'était tout à fait louable comme entreprise, c'est pas vrai que les gens qui disaient qu'ils trouvaient ces corps-là magnifiques les trouvaient vraiment magnifiques. C'était cette hypocrisie-là que je voulais dénoncer. Mais j'avoue qu'après avoir lu votre livre, il y a des passages extrêmement touchants. Dans le fond, vous revenez sur le principe de base qui est le regard des autres qui est excessivement blessant. Pourquoi vous avez-vous voulu écrire ce livre-là, Michaël?
Parce que je pense que c'est important qu'on fasse ce débat-là, et même que ce débat-là, bon, touche évidemment directement les personnes grosses, mais je pense que ça touche également plein de personnes qui n'ont pas un corps gros, mais qui néanmoins subissent également cette pression sociale-là, ces regards-là, ils parfois développent des troubles alimentaires ou développent une forme de détresse psychologique ou des dépressions parce que elles se mettent tellement de pression pour arriver à suivre ce regard ou cette pression-là que elles sont aussi victimes, comme les personnes grosses sont victimes également. Donc, je voulais écrire ce livre-là parce que on est quelques personnes au Québec à décrire ce phénomène-là, la grossophobie. Mais je voulais que le débat aille plus loin. Et pour ça, je me suis dit, ben, je pense qu'un livre est la meilleure façon. Donc, une espèce d'ouvrage référence qui, j'espère, permettra d'amener ce débat-là plus loin. Donc, c'était par nécessité. Je sentais un besoin qu'il y ait un livre comme ça au Québec.
D'accord. Alors, débattons. Vous voulez qu'on débatte? Alors, débattons. Moi, j'ai un problème avec le mot grossophobie. Parce que on vit dans une époque où chaque fois que quelqu'un critique quelque chose ou se questionne sur quelque chose, ou remet quelque chose en question, il se fait traiter de XY-phobe. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de parler du poids ou des problèmes de santé qui sont associés au poids, de soulever certaines questions sans se faire nécessairement traiter de grossophobe? Est-ce qu'on doit forcément en arriver là?
Ben, j'imagine qu'une manière de débattre de tout sans se faire donner des étiquettes tant que c'est fait dans le respect. Après ça, bon, je commencerai pas moi à faire le procès de qui lance des étiquettes pour rien ou avec raison. Mais par contre, il y a des mécanismes qui existent dans la société. Je pense que c'est bien de nommer et d'expliquer ces mécanismes-là. Après ça, je pense que chaque personne est capable peut-être de se juger si oui ou non le chapeau leur fait ou si leur approche est bonne, se fait dans le respect. Mais c'est sûr qu'on peut discuter de tout, mais après ça, il y a toujours la façon dont c'est discuté. Est-ce que dans la discussion, la personne revient toujours qu'avec des préjugés? Ben là, il y aurait peut-être matière à discuter de ces préjugés-là avant même de discuter peut-être du sujet. Donc, je pense quand même important de nommer et de décrire des mécanismes qui existent dans la société parce qu'il y a une forme de discrimination qui est faite envers les personnes grosses et je pense que c'est important de le nommer si on veut ne serait-ce que diminuer la discrimination, mais si on veut aussi attaquer ce qui est considéré comme le plus important problème de santé publique ou presque un des plus importants, ben il faudrait en parler comme il faut si on veut l'attaquer comme il faut et ça, ben il faut nommer donc ce qui existe et ça, ben la grossophobie en fait partie. Donc oui, je pense que c'est important de le nommer et de l'expliquer.
Mais j'ai de la difficulté à vous suivre, Michael, parce que vous venez de dire que c'est un des plus gros problèmes de santé publique. Donc on parle bien de l'obésité comme étant un des plus grands problèmes de santé publique.
Je dis que c'est considéré comme un des plus importants problèmes.
Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça? Donc, vous allez à oui, contrepoint de l'ensemble du corps médical qui dit que, c'est une des... Par exemple, si vous parlez à quelqu'un comme Richard Béliveau, docteur Béliveau, donc, lui, il dit, on ne peut pas, ce n'est pas vrai, on ne peut pas être gros et en santé. C'est ces deux mots qui ne vont pas ensemble. Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Je dis qu'en fond, on n'en parle pas de la bonne façon à trop d'occasions en fait. Est-ce que effectivement, c'est sûr qu'il y a un problème de société quelque part parce que si on regarde les statistiques, il y a 3 fois plus de personnes grosses depuis les années 70. Donc c'est clair qu'il y a quelque chose de vicié, de malsain en ce moment dans notre mode de vie nord-américain. Sinon, on n'aurait pas ces statistiques-là. Ça serait des chiffres qui seraient sûrement plus stables, j'imagine. Par contre, on n'en parle pas nécessairement de la bonne façon parce que oui, on peut être gros et en santé. Et après, ben, il faudrait parler de ce problème-là parce que oui, il y a une partie, il y a un problème qui n'est pas totalement faux, il y en a un, mais est-ce qu'on en parle comme il faut? Là, par contre, moi, c'est là que je diverge. Je pense qu'on n'en parle pas comme il faut. On l'attaque pas de la bonne manière non plus.
Pourquoi? Parce qu'on culpabilise au lieu de responsabiliser. Pourquoi? En quoi on n'en parle pas bien? Parce que, bon, mettez-vous à la place, par exemple, de quelqu'un qui travaille en médecine familiale et qui a vu, justement, quelqu'un qui a une pratique depuis plusieurs années et qui a vu, en effet, au fil des ans, défiler dans son cabinet médical des gens de plus en plus gros et de plus en plus gros, de plus en plus jeunes. Parce que le phénomène, par exemple, de l'obésité chez les adolescents ou chez les enfants, c'est quelque chose qu'on connaissait pas dans les années 40, dans les années 50 ou avant. Là, ça n'existait pas. Alors, comment ce médecin-là devrait parler du phénomène de santé qu'est l'obésité pour ne pas faire de peine aux gens qui sont gros?
La question n'est pas tant de faire de la peine ou de pas faire de peine, c'est de traiter les gens comme des êtres humains et de les respecter. Vous savez, les médecins, malgré leurs études et le respect que j'ai pour eux, ils ont le même biais que sont comme nous, des membres de la société. Ils peuvent avoir des biais. Il y a une étude française qui mentionne que 3/4 des médecins ont des préjugés envers les personnes grosses et ne traitent pas les personnes grosses de la même façon. C'est-à-dire que il y a moins de dépistage, par exemple, de cancer sur les personnes grosses parce que lorsqu'une personne grosse arrive et décrit ses symptômes ou décrit sa vie, le médecin, trop souvent, ne fait que ramener tout au poids, comme si tout dans sa vie reposait sur le poids. Et il y a des personnes qui sont mortes parce qu'on n'a pas détecté un cancer, parce qu'on n'a pas détecté un problème hormonal, parce qu'on n'a pas détecté un problème osseux. On mettait tout sur le poids. C'est comme si le poids venait camoufler d'autres problèmes et empêche les médecins d'investiguer, de faire les bons tests et de vraiment aller plus loin. Et là, ça devient dangereux. Ça, c'est un des aspects qui démontre qu'on n'en parle pas de la même façon. Lorsqu'on regarde comment l'ONU propose d'attaquer, par exemple, justement, ce problème de santé publique qu'est l'obésité, sur à peu près leurs 10 recommandations, oui, évidemment, il y en a un qui est encourager les gens à bouger plus, encourager les gens à mieux manger. Mais il y en a d'autres également, ils disent faut changer notre mode de vie. Il y a un mode de vie qui est malsain. Ils appellent ça même, j'ai un blanc sur le terme, mais on est dans une société obésogène, voilà, où, enfin, on est une société qui encourage la prise de poids. Donc, à un moment donné, il faudrait en parler comme il faut. Donc, ce n'est pas vrai que tout ne repose que sur les comportements des gens. C'est qu'on est aussi dans une société qui encourage cette prise de poids-là. Et je le rappelle, 3 fois plus de personnes grosses depuis les années 1970. Ce n'est clairement pas parce que il y a 3 fois plus de gens qui sont paresseuses parce qu'il y a quelque chose de malsain qui dépasse les simples personnes grosses. Il y a quelque chose de plus grand aussi, de malsain dans notre société. Et ça, bon, on l'aborde presque jamais.
Mais alors, ce serait quoi? Par exemple, donc, la bouffe industrielle qui est partout. Quand on est sur la route, c'est impossible de manger de façon saine. Notre mode de vie sédentaire qui encourage ça, évidemment. Mm-hmm. Même au-delà de la bouffe industrielle, de toute façon, le sucre, qui est vraiment l'ennemi numéro un, se retrouve partout. Oui. Donc, est-ce que c'est pas aussi une défaite facile? OK, je vais faire l'avocat du diable deux secondes. OK? C'est facile de dire, bon, ben, moi, c'est pas de ma faute, je suis devenu gros. Je fais une caricature, hein. Je dis pas c'est ce que vous dites, Michael, mais. Est-ce que il y a des gens qui disent bon ben moi je suis devenu gros, c'est pas de ma faute, il y a des distributrices de boissons gazeuses partout, il y a des McDo à tous les coins de rue, moi je voulais bien manger mais la tentation est partout. Ça c'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, c'est de dire quelqu'un d'autre qui est exposé à la même affaire, qui est exposé aux mêmes machines à coke puis McDo à tous les coins de rue, ne fréquente pas ces endroits-là et mange sainement. Donc c'est un peu facile de dire c'est la faute de la société, non?
Ben, l'idée n'est pas de dire que le poids des gens n'est que de la faute de la société, c'est de regarder la perspective comme il faut. Moi, je me souviens, il y a une époque où j'avais un très bas revenu et c'était très difficile de bien manger. Et à partir du moment que j'ai eu un bon revenu, ça a été facile pour moi de faire des choix sains parce que malheureusement, bien manger, ça coûte souvent plus cher.
Mais un plat de lentilles, ça coûte moins cher qu'un steak, Michael?
Oui, mais là encore là, faut savoir cuisiner aussi. Ça, c'est un autre truc aussi. Bon, je veux dire, c'est pas aussi simple que simple volonté. Surtout, deux personnes qui mangent la même chose n'auront pas le même poids, n'auront pas le même corps, parce que la partie génétique embarque 30% du poids seulement dépend des comportements. Et là, ça ne veut pas dire que les gens n'ont aucune influence sur leur poids. Mais ça veut dire qu'ils ne contrôlent pas leur poids. Personne ne contrôle son corps.
Ils contrôlent pas tout. Mais en même temps, vous ramenez ça à une question de génétique. Puis en même temps, vous-même, vous nous dites que depuis les années 70, il y a trois fois plus de personnes qui sont en surpoids. Alors, la génétique de l'être humain n'a pas changé au cours des 49 dernières années.
Non, mais notre mode de vie, oui.
Oui.
Et notre mode de vie, en fait, c'est que notre mode de vie déclenche cette génétique. Notre corps est fait pour prendre du poids. C'est un mécanisme de survie, prendre du poids. Et ben voilà, vous l'avez dit, vu qu'on est dans un mode qui est assez sédentaire, de manière naturelle, on ne fait pas beaucoup d'activité physique. Il y a toute cette industrie de l'alimentation, oui. Il y a notre façon de se transporter. Il y a nos loisirs qui ont changé énormément. Et donc, ça vient déclencher nos gènes qui sont faits pour qu'on prenne du
D'accord.
poids. Mais
bon.
C'est juste que mon point, c'est que ce n'est pas aussi simple que de volonté. Ce n'est pas non plus que de la faute de la société. C'est que le portrait est très large et c'est plein de nuances et c'est ça qu'il faut aborder et mettre en valeur, en fait.
D'accord. Par contre, dans votre livre, vous parlez beaucoup de la grossophobie, ce que vous appelez le fat shaming, qui est en fait un petit peu la même chose. En fait, c'est la traduction française, je dirais, de fat shaming. Mais en même temps, je regarde par exemple, OK, je vous donne un exemple, l'humoriste Catherine Levac. Bon, elle était en surpoids. Quand elle a commencé sa carrière, elle était, je sais pas quel est le terme qui, pour vous, serait peut-être acceptable, mais bon, elle était vraiment en surpoids. Elle était très, 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 très ronde. À un moment donné, graduellement, elle a perdu de son poids et aujourd'hui, c'est une fille elle est pas maigre, mais elle est mince, elle est bon. Est-ce que si j'avais Catherine Levac en face de moi et que je lui posais la question, es-tu plus en santé? Est-ce que tu te sens mieux dans ta peau aujourd'hui que quand tu étais en surpoids? Je pense qu'à 99%, on serait d'accord que la réponse c'est oui, elle se sent plus en forme maintenant. Mais si à l'époque où elle était en surpoids, je lui avais dit t'es pas en santé, t'es pas en forme, est-ce que j'aurais été grossophobe de lui dire?
Peut-être, oui.
Oui?
Ça dépend du contexte. Mais vous voyez, vous avez déjà présenté le truc de deux manières différentes. Vous avez dit, vous pourriez demander si elle se sent mieux en santé ou si elle se sent mieux. Et ça, ce sont deux
choses
différentes.
Mieux dans sa peau. Mieux dans sa peau.
Ce sont deux choses différentes, ça. Être en santé, être bien dans sa peau, c'est deux choses différentes. On peut avoir un poids santé et ne pas être bien dans sa peau. Et on peut être gros et être bien dans sa peau. Ce sont déjà deux choses différentes. Et entre en santé et en forme, aussi, ce sont deux choses différentes. On peut être en très bonne santé et ne pas être en forme, ne pas être un sportif particulier, ne pas être athlétique. Ce sont encore là deux choses différentes aussi. Donc, des fois, on mélange certains concepts, certains vocabulaires qui sont des choses différentes. Et après, moi, j'ai aucune idée pourquoi Catherine Levesque a perdu du poids. Est-ce qu'elle a fait ça parce qu'elle avait besoin de perdre du poids pour se sentir mieux dans sa peau? Est-ce que c'est parce qu'elle a fait une dépression? Est-ce que c'est pour... je sais pas, il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut perdre du poids. Et j'espère que c'est pour des bonnes raisons et que j'espère qu'elle, effectivement, en ce moment, elle se sent mieux dans sa peau. Et en fait, c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. Mais c'est ce qu'on devrait également souhaiter pour des gens, oui, qui sont gros, mais qui ne nuisent pas à leur santé. Parce qu'on peut être gros et ne pas nuire à sa santé. Il y a différents degrés, justement, quand même.
Mais les médecins disent le contraire, Michael.
Pas
les
tous,
médecins,
pas tous.
Ben, la majorité, on va dire ça comme ça, la majorité des médecins disent qu'on ne peut pas être, on peut pas être obèse et en santé. C'est parce que avec l'obésité, juste finir ma phrase, mais avec l'obésité viennent des problèmes de diabète de type 2, viennent des problèmes cardiaques, viennent. C'est pas une aberration que de le dire, c'est pas du fat shaming de le dire, c'est pas une haine des personnes adipeuses de dire ça. Ça vient avec des problèmes de santé. Je comprends pas pourquoi. Si je dis à quelqu'un qui fume la cigarette, ça va te causer des problèmes de santé, est-ce qu'on va m'accuser d'être cigarettophobe? Non! Je fais une constatation, je dis que ça cause des problèmes de santé. Pourquoi quand on applique cette même constatation à des personnes en surpoids, on se fait traiter de grossophobe? C'est ça que je comprends pas.
Parce que on déduit automatiquement que dès que la personne a des rondeurs, elle va avoir des problèmes de santé, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Oui, ça, à partir de certains poids, on augmente les risques de complications. Je le nie pas et je pense pas qu'il y a personne que je connais qui le nie. Par contre, il y a une sacrée différence entre quelqu'un qui a 40-50 livres de trop et quelqu'un qui en a 300 livres de trop. On s'entend, là, les risques ne sont pas les mêmes. Et non, tous les médecins ne disent pas ça. Il y a même des... Moi, je reçois des commentaires de médecins, de nutritionnistes, d'autres professionnels de la santé qui me remercient d'enfin parler d'une autre façon du problème de poids. En fait, c'est que trop souvent, on va seulement revenir au poids, alors que le poids n'est pas un signe de santé. Si je mentionne qu'il y a trois personnes devant moi, une 150 livres, une 200 livres, une 250 livres, impossible de savoir laquelle des trois est en meilleure santé. Par contre, si on commence à demander, c'est quoi tes habitudes de vie? As-tu une vie saine? As-tu des bonnes habitudes? Là, on commence à avoir des indices à savoir laquelle des trois personnes risquent d'être en meilleure santé.
OK, je vais vous poser la question autrement, Michael. Quand vous pesiez 484 livres, étiez-vous en santé?
Je n'avais aucun problème de santé. Après ça, est-ce que j'étais bien dans ma peau? Non.
Okay.
Ma santé mentale,
aucun...
on peut trouver, mais je n'avais aucun problème de santé.
OK, vous aviez aucun problème de santé à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que les 484 livres que vous aviez ne vont pas, mettons, dans 5 ans, parce que vous êtes très jeune quand même, ne vont pas dans 5 ans ou dans 10 ans vous rattraper.
Effectivement, peut-être, mais rendu là, il y a bien des choses qu'on fait dans nos vies qui peuvent avoir des risques aussi.
Oui, mais là, vous évitez le problème.
Non, mais c'est qu'il faut pas non plus. Un des gros problèmes, c'est que parfois, au nom de la santé, c'est qu'on va commencer à humilier les gens. Et c'est pas
humiliant
les gens.
Mais non, mais je suis pas d'accord avec ça. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je parle pas d'humilier. Mais non, mais de toute façon, il y a personne qui est en faveur de l'humiliation. C'est de toute façon, il y a personne qui est contre la vertu. C'est sûr que je suis la première personne à dénoncer l'humiliation. Puis quand vous racontez dans votre livre, ça me touche énormément. Quand vous dites que vous avez recueilli le témoignage de plein de gens en surpoids qui se font dire, mais les pires horreurs, courent la grosse, puis on veut pas de gros ici, puis tout ça. Pardon?
C'est au nom de la santé qu'on se fait dire ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je ne nie pas les problèmes, il faut juste faire attention. Au nom de la santé, on ne peut pas dire non plus n'importe quoi ou ça ne peut pas enrober des fois des propos qui peuvent être blessants. Il y a différentes façons de le dire et surtout, malheureusement, de dire ça à des gens qu'on ne connaît pas leurs habitudes de vie. Ça, oui, c'est un préjugé, en fait. C'est un préjugement. Faut faire attention, on connaît pas le contexte de la personne.
Ouais, je comprends. Mais
faut
en tout cas,
attention avec ça.
Mais on est rendu à la fin de l'entrevue,
oui.
Mais je veux juste prendre vraiment 30 secondes puis on me fait signe en régie mais je vais les prendre ces 30 secondes. Il y a un passage dans votre livre où vous décrivez une situation et au début on sait pas si c'est une situation réelle ou pas. Vous dites que vous allez dans un bar, il y a une fille, vous commencez à lui parler, vous allez chez vous et puis elle vous demande de vous mettre à nu et elle a de la tendresse envers vous. Puis là vous finissez, vous nous couper le sifflet en nous disant ben ça m'est jamais arrivé. Moi, la seule chose que je demande, c'est que les gens ont de la tendresse envers moi. Et je pense que votre livre, ce qu'on lit entre les lignes, c'est un énorme plaidoyer pour la tendresse. Et là-dessus, même si l'émission s'appelle, on n'est pas obligé d'être d'accord. Là-dessus, on est vraiment d'accord. Laissons de côté l'humiliation, laissons de côté les mots blessants. Envoyons un maximum de tendresse, d'empathie et de compassion aux personnes en surpoids. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas banaliser les problèmes de santé qui sont reliés au surpoids.
Ben, j'espère que je donne pas l'impression de banaliser. En fait, au contraire, moi, ce que je veux, c'est justement c'est d'améliorer la santé des gens et non pas banaliser des risques. Je veux au contraire aider les gens avec mon livre.
Bon, ben en tout cas, ça a été très agréable et très intéressant de vous parler. Puis je recommande vraiment votre livre à tout le monde parce qu'on y apprend plein de choses. En fait, on se promène dans votre monde, dans votre univers, et c'est toujours intéressant de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre.
Merci Sophie.
Merci Michaël Bergeron. Donc son livre s'intitule La vie en gros et c'est publié aux éditions Somme Toute. Après la pause, on parle télé avec Guy Fournier.